Je te remercie beaucoup de m'avoir invité et fait l'honneur de m'inviter à faire ce séminaire. Je vais donc vous faire une présentation sur la physiopathologie du VIH qui va être, selon une orientation, qui reflète ma formation initiale, à la fois scientifique mais aussi médicale, donc physiopathologie très médicale de l'infection par VIH. Et je commence par, puisque nous sommes dans le cadre du cours de la subversion du système immunitaire par les agents pathogènes de Philippe, je vais vous parler du VIH comme pirate de la cabine de pilotage du système immunitaire. Et pourquoi cela ? Parce que les cellules cibles du VIH sont justement les membres de cette cabine de pilotage. Donc, dans une première partie, je vais vous parler des cellules cibles du VIH et des réponses immunitaires qui se font contre le VIH. Et dans une deuxième partie, de l'histoire naturelle de l'infection et des déterminants qui font que le virus est pathogène ou que d'autres ne le sont pas, et qui peuvent nous enseigner comment reprendre le contrôle de l'avion après qu'il ait été détourné par le virus. Donc, les réponses immunitaires, c'est aussi un biais très immunologiste, celui que je vais avoir pour vous présenter ce sujet, puisque je suis immunologiste et on ne se refait pas. Les réponses cellulaires contre le VIH très importantes et qui ont été vraiment bien démontrées, c'est les réponses des lymphocytes CD8, qui sont aussi appelés cytotoxiques parce que c'est des lymphocytes tueurs et qui vont tuer d'une manière informée avec leur récepteur T qui reconnaît très spécifiquement un déterminant à la surface d'une cellule. Ici, un déterminant viral à la surface d'une dendritique infectée. Ces lymphocytes cytotoxiques sont aidés par les lymphocytes auxiliaires CD4 qui sont la cible principale de l'infection par le VIH. Les lymphocytes NK sont les troisièmes cellules effectrices, elles non spécifiques, mais qui ont probablement une importance qui n'a pas encore été complètement explorée. Et les cellules dendritiques que vous voyez ici ne sont pas des effecteurs au même titre que les lymphocytes cytotoxiques, mais cependant, elles sont indispensables dans ce ballet entre les différents effecteurs de la réponse adaptative parce qu'elles sont les seules cellules présentatrices qui puissent présenter les antigènes aux lymphocytes naïfs. Qu'est-ce que ça veut dire ? Pour initier une réponse en vaccination ou au début d'une infection ou alors à un épitope muté, ce qui se produit très fréquemment, vous allez le voir, lors de l'infection par le VIH, ou alors pour stimuler tous ces pauvres lymphocytes T cytotoxiques naïfs qui restent parce que les lymphocytes T mémoire, comme vous allez le voir, sont détruits par le virus, il faut sans arrêt un rôle, une fonction des cellules dendritiques. Donc, cabine de pilotage dans laquelle le pilote est absent et le pilote, c'est probablement lymphocyte CD4 aidé de la cellule dendritique. Et nous voilà dans une situation assez dramatique. Le lymphocyte CD4, donc, il est central dans les réponses immunitaires. Il reconnaît avec son récepteur des déterminants, des épitopes, à la surface des cellules infectées ou présentatrices, l'épitope ayant été digéré à l'intérieur de cette cellule, et c'est un peptide qui est présenté à la surface d'une molécule d'histocompatibilité. Les molécules d'histocompatibilité sont appelées comme cela parce qu'elles induisent des rejets de greffe, mais elles permettent la reconnaissance du soi et aussi du soi modifié par les peptides des virus ou des bactéries qui nous infectent. Donc, le récepteur T de notre lymphocyte T CD4 reconnaît ces molécules à la surface d'une molécule d'histocompatibilité qui est de classe 2. C'est comme les directeurs de recherche, il y a des classes dans les molécules d'histocompatibilité. Les molécules d'histocompatibilité de classe 2 ont une affinité particulière pour une molécule auxiliaire qui s'appelle CD4 et qui donne leur nom au lymphocyte T CD4+, qui est donc, ça veut dire qu'ils expriment cette molécule auxiliaire CD4, et ça les rend capables donc, de reconnaître plus particulièrement des molécules d'histocompatibilité de classe 2. C'est lié à la structure tridimensionnelle à la fois de la molécule d'histocompatibilité de classe 2 et de la molécule CD4. Lorsque lymphocyte T reconnaît un épitope à la surface de n'importe quelle cellule, qu'elle soit présentatrice ou autre, le lymphocyte T va faire une réponse spécifique qui consiste en une sécrétion de cytokines, d'interleukines, et aussi une certaine cytotoxicité. Donc elles sont auxiliaires par l'interleukine 2 vis-à-vis des lymphocytes CD8, dont elles permettent la prolifération. L'interleukine 2, c'est leur principal facteur de croissance, pour simplifier. Elles permettent aussi la croissance et la différenciation des lymphocytes B et leur maturation pour faire des anticorps de plus en plus affins pour les antigènes, grâce à l'IL-4. Et elle est également une cellule effectrice par la sécrétion d'un certain nombre de facteurs et par une certaine cytolyse médiée par face. Donc ce lymphocyte TCD4, auxiliaire mais aussi effecteur, est au centre et dans la cabine de pilotage du système immunitaire. Donc il a été montré que le VIH... Alors je vais vous parler dans ma première partie des différentes cellules qui sont en jeu dans le système immunitaire lors de l'infection par le VIH. Je commence par la principale cible de l'infection, bien sûr, qui est le lymphocyte TCD4. Je vais poursuivre avec les secondes cibles de l'infection, qui sont les monocytes et les dendritiques, qui expriment aussi les récepteurs qu'il faut pour être infecté par le VIH. Je poursuivrai par les autres acteurs de l'immunité. Et dans chaque cas, je vous décrirai ce que leur fait le virus, et comment ces cellules combattent le virus et comment le virus leur échappe, donc les mécanismes d'échappement. Et c'est dans la deuxième partie que j'intégrerai ces différents acteurs de l'immunité entre eux et que je vous montrerai le jeu pervers que joue le virus avec tout le système pour essayer de circonvenir l'immunité dans son ensemble. Donc nous en sommes à la première partie et aux premières cellules cibles du virus, les lymphocytes CD4. Donc, sans vous détailler beaucoup les mécanismes moléculaires et virologiques dont je ne suis pas spécialiste, je peux vous dire cependant que le lymphocyte TCD4 est profondément altéré par son infection par le VIH qui va faire rentrer la molécule accessoire CD4, donc le récepteur du VIH lui-même, mais aussi l'agent de la fonction accessoire de reconnaissance des antigènes sur les cellules présentatrices ou les cellules infectées. Donc le virus va faire rentrer CD4 à l'intérieur de la cellule et c'est médié par une des protéines que vous a montré Philippe Sansonetti, qui est la protéine NEF, une des protéines accessoires du virus, qui joue un rôle important en retenant CD4 à l'intérieur du lymphocyte CD4 ou d'autres cellules CD4 positives. D'ailleurs, un moyen de reconnaître si un lymphocyte CD4 est infecté, c'est de voir la down-modulation, comme on dit en bon français, de CD4 à la surface des cellules. D'autres molécules sont entraînées par NEF à l'intérieur de la cellule. C'est les molécules d'histocompatibilité. Donc, vous voyez que la reconnaissance antigénique est doublement pénalisée par l'infection par VIH, et ceci principalement par l'action de cette molécule accessoire NEF. Donc NEF va empêcher la reconnaissance par le système immunitaire, va ralentir la reconnaissance par le système immunitaire de ses propres déterminants à la surface des cellules qui l'infectent. C'est une première stratégie d'échappement. Et le virus va tuer très rapidement les lymphocytes TCD4. Vous voyez le lymphocyte TCD4 tout disparu, là. Et ça provoque le déficit immunitaire caractéristique de l'infection par le VIH, qui est centralement un déficit en lymphocytes TCD4, en nombre, mais surtout en fonction, parce que le système immunitaire, les lymphocytes TCD4 sont renouvelés avec beaucoup d'efforts par le système hématopoïétique, mais leur fonction est quand même altérée. Et le défaut de lymphocyte CD4 induit un déficit immunitaire profond contre les pathogènes intracellulaires, surtout, d'où les infections opportunistes qui se produisent, des infections à mycobactéries, comme la tuberculose, des infections ACMV, c'est un virus qui est intracellulaire, des infections par des parasites comme les cryptococcoses, qui normalement ne vont pas infecter si facilement un sujet en bonne santé avec un système immunitaire sain, mais qui va profiter du déficit de lymphocytosité CD4 chez les patients infectés pour le rendre malade. Alors, c'est un aspect très dynamique et pendant pas mal d'années, au début de cette passionnante investigation des modes d'action du VIH, on ne comprenait pas très bien parce qu'on voyait très peu de lymphocytes CD4 infectés, alors que le déficit de fonction des CD4 était évident. Et en fait, pour être infecté, un lymphocyte CD4 a besoin d'être activé. C'est lié au fait que le promoteur du virus ne marche que quand NF-kappa-B va se fixer dessus, NF-kappa-B étant un facteur de transcription qui va se fixer donc sur ce promoteur du LTR. Pour que NF-kappa-B se fixe, aille dans le noyau, il faut que le lymphocyte T soit activé. Donc le lymphocyte T activé va être infectable par le virus et le produire d'une façon active. Et ce qui a été très surprenant de voir, au début, en 1995, sont apparus les premiers antirétroviraux anti-intégrase qui complétaient les inhibiteurs de nucléotides et nucléosides et qui donnaient un vrai coup de frein à l'infection virale. Et des études cinétiques ont été faites et ont constaté que la demi-vie d'un lymphocyte TCD4 activé et infecté par le virus n'est que de 2 jours. Ce qui était très surprenant. Ce qui fait qu'on voit très peu de lymphocytes CD4 infectés, dans la mesure où, dès qu'ils sont infectés, ils meurent. Donc, le lymphocyte T majoritairement disparaît, il va mourir. Un très faible pourcentage de lymphocytes CD4 va rester infecté de façon latente et va persister. Et ces lymphocytes CD4 infectés de façon latente vont soit vaincre l'infection parce que le complexe de préintégration du virus est assez fragile, soit ce complexe de préintégration va réussir à s'intégrer dans l'ADN et le virus, l'ADN rétrotranscrit du virus est alors intégré dans l'ADN du lymphocyte CD4. Et là, c'est comme un cancer. Le virus est comme un cancer dans le génome du lymphocyte CD4. Il va devenir très difficile de le déloger. Et vous avez constitution de réservoir, ici. Donc le lymphocyte CD4 au repos qui s'active avec un complexe de préintégration encore non intégré. Si le provirus s'intègre dans l'ADN, ensuite vous allez avoir une cellule infectée de façon latente qui peut se cacher pendant des années soit dans le tissu lymphoïde, soit dans des tissus non lymphoïdes, notamment des tissus protégés du système immunitaire comme le cerveau. À la faveur d'une infection, soit de nouveau par le virus, soit par des infections intercurrentes, ces lymphocytes TCD4 infectés de façon latente peuvent s'activer et de nouveau refaire partir un cycle de réplication du virus, mourir, etc. Donc vous voyez, c'est quand même assez délicat d'aller atteindre le virus une fois qu'il s'est intégré dans l'ADN d'un lymphocyte CD4 et que le lymphocyte CD4 devient latent et protégé dans des sites protégés. Donc vous avez ces lymphocytes CD4 dans la circulation qui vont disparaître très rapidement, mais encore plus rapidement dans l'intestin. Et ceci, pourquoi ? Eh bien, on s'en est aperçu aussi un certain nombre d'années après la disparition de lymphocytes CD4 qui était évidente dans la circulation. Mais dans l'intestin, c'est assez dramatique et on pense que c'est parce qu'au niveau de l'intestin, nous sommes en équilibre avec nos bactéries intestinales. Et tant qu'on est vivant et en bonne santé, l'équilibre est à notre faveur, mais vous savez bien que si nous faiblissons, cet équilibre va rapidement tourner à la faveur des bactéries. Et il y a une activation permanente au niveau de notre intestin par ces bactéries qui sont saprophytes, qui sont plutôt en fait avec qui sont plutôt bonnes pour nous, mais qui challenge sans arrêt notre système immunitaire et ça crée une certaine activation, d'où une possibilité d'infection par le virus, le VIH. Au niveau de cette interface muqueuse dans l'intestin, il y a infection, il y a une activation permanente qui va conduire à la déplétion plus forte des lymphocytes TCD4, mais aussi des macrophages et des cellules dendritiques porteuses du même récepteur dans l'intestin. Ça va faire une activation à bas bruit, un petit peu un passage, donc une altération de la barrière intestinale, un passage de produits bactériens dans la circulation et donc en systémique dans les ganglions. On va avoir une activation permanente qui va provoquer à la longue une fibrose et donc une destruction de l'architecture. Et c'est ainsi que s'installe un cycle d'hyperactivation chronique du système immunitaire qui est très délétère lors de l'infection VIH. Je vous en reparlerai plus loin. Les lymphocytes TCD4 viennent en plusieurs couleurs, several flavors, comme on dit en anglais. Il y a les lymphocytes TCD4 auxiliaires, ce dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui aident à faire, qui aident les lymphocytes cytotoxiques à faire leur fonction, et avec l'interleukine 2, l'interféron gamma. Il y a les lymphocytes auxiliaires de type 2 qui aident les B à faire les anticorps, les auxiliaires de type 17 qui font de l'IL-17 et qui sont importants au niveau des pathogènes de l'intestin notamment. Et puis vous avez aussi une possibilité importante de se transformer en T-régulatrices qui, elles, vont aller calmer les réponses immunitaires spécifiquement à la fin des réponses immunitaires et qui ont donc leur utilité aussi parce que les réponses immunitaires, elles sont certes bénéfiques, mais c'est elles qui vous rendent malade quand vous avez la grippe, une grippe carabinée. C'est votre système immunitaire qui vous rend malade. Et une fois le virus vaincu, il est urgent d'aller calmer le jeu avec des T-régulatrices. Donc, au niveau de l'intestin, on a une perte préférentielle aussi de ces T-auxiliaires TH17 qui sont particulièrement actives au niveau de l'intestin dans la défense antibactérienne. Et ces TH17 disparaissent plus rapidement que les autres au niveau de l'intestin lors de l'infection pathogène. Et cela a été corrélé à la translocation bactérienne augmentée et par exemple à une susceptibilité de singes à des infections opportunistes par des salmonelles dans un modèle d'infection chez le singe. C'est important parce que les salmonelles font partie des infections opportunistes très préoccupantes lors de l'infection par VIH. Et en Afrique, c'est une des grandes causes de mortalité. Ce sont des salmonelles qui ne sont pas typhoïdes, ni paratyphoïdes, mais encore d'autres sortes de salmonelles qui sont la cause de la mort d'un grand nombre de patients en Afrique, dans ces pays où il n'y a pas encore un accès total aux antirétroviraux. Bien, là, je vous ai parlé des T-régulatrices. Et là, les lymphocytes T-régulateurs, je vous ai dit qu'ils pouvaient calmer les réponses immunitaires à la fin. Ils induisent une tolérance immunitaire. Donc, il y a un équilibre. Ils protègent l'hôte de l'immunopathologie que pourraient générer des réponses immunitaires trop fortes, mais en même temps, il faut un équilibre, il ne faut pas qu'il diminue non plus les réponses anti-infectieuses. Donc, un équilibre subtil, et l'immunologie, c'est ça, c'est toujours un équilibre périlleux entre des facteurs. Chaque acteur effecteur contre le virus va avoir un bon côté antiviral et un mauvais côté pathogène. Tout l'art, c'est de comprendre l'équilibre entre les deux et d'essayer de le provoquer chez le plus de patients possible. Donc, ces lymphocytes T-régulateurs, pour certains auteurs, et les premiers qui l'ont découvert, c'était des Français, c'était Laurence Weiss, qui ont trouvé que ça avait un effet plutôt défavorable, une inhibition des réponses T spécifiques, une corrélation positive avec la charge virale. Mais d'autres équipes ont trouvé plutôt un effet protecteur des T-régulatrices. Donc ici, j'ai illustré, là, ça sort de l'article de Claire Chaunier et Ian Anderson, donc une Française qui s'est installée en Amérique et qui voit dans les ganglions de certains patients des cellules régulatrices, FOXP3, donc FOXP3 est en rouge, et qui est non, en vert, et les autres marqueurs sont en rouge, et on voit que vous avez une coexpression de facteurs régulateurs et de facteurs d'activation au niveau des amygdales de ces patients, et qu'il y a une corrélation entre les T régulatrices et la charge virale des patients. Donc, plus il y a de T régulatrices, plus ces patients sont infectés. Donc, je vous ai parlé des lymphocytes TCD4. Maintenant, je vais vous parler des autres cellules cibles de l'infection par le VIH. Pourquoi sont-elles des cibles? Parce qu'elles ont aussi le récepteur CD4 et les co-récepteurs qui permettent l'infection, qui permettent la fusion en fait, de l'enveloppe du virus avec la membrane cellulaire, CCR5 et CXCR4. Ces cellules sont des cellules dendritiques et des monocytes. Donc, elles sont moins infectables que les lymphocytes CD4, je vais vous le dire après. Il y a plusieurs sortes de cellules dendritiques. Elles portent des marqueurs différents. Donc ici, j'ai choisi des marqueurs dont le nom est homogène, c'est plus simple à exposer. Celles qui expriment BDCA2, c'est les dendritiques plasmacytoïdes. Elles étaient connues depuis longtemps comme les sécrétrices d'interférons, Natural Interferon Producing Cells. Et elles sont donc productrices d'un facteur antiviral qui est utilisé par les médecins contre les hépatites virales, par exemple. C'est un médicament contre les hépatites virales, l'interféron de type 1. Il y a des études faites dans l'infection VIH. C'est in vitro, en tout cas, l'interféron a une action antivirale très nette contre le VIH. Les autres dendritiques sont des dendritiques de type myéloïde. Elles sont assez différentes. Elles présentent surtout les antigènes. Elles produisent de l'interleukine 12, de l'interleukine 23, qui servent à polariser les réponses T antivirales vers des sens plutôt Th1 ou Th17. Et celles-là sont plutôt spécialisées dans une fonction qui s'appelle la présentation croisée, qui sensibilise contre les antigènes du VIH et qui servira, je pense, à la vaccination. Mais ce n'est pas un aspect que je vais vous développer. Les monocytes, eux, outre CD4 et les co-récepteurs du VIH, expriment CD14, mais à des niveaux variés. Le CD14, c'est un récepteur du lipopolysaccharide bactérien qui est présent notamment sur les colibacilles de l'intestin. Donc, et ces colibacilles qui vont passer dans la circulation si la muqueuse est altérée. Et donc, certains expriment très fortement CD14, c'est des monocytes classiques qui ont un grand rôle de phagocytose de tout un tas de pathogènes, y compris le VIH, et qui vont être capables assez efficacement de les détruire. Mais le VIH, lui, contrecarre, bien entendu. Et puis, il y en a d'autres qui produisent beaucoup d'inflammation et qui sont très infectables par le VIH et qui ont peut-être bien un rôle dans l'hyperactivation du système immunitaire. Donc, je vous ai dit que les dendritiques étaient les seules présentatrices capables de stimuler les lymphocytes T naïfs, et elles le font quand elles sont matures. Donc, il y a toute une séquence qui fait que quand elles sont immatures, ce sont des sentinelles avec beaucoup de récepteurs à leur surface pour attirer à elles tout ce qui est pathogène ou signaux d'infection, de danger venant de l'extérieur ou de l'intérieur. Et à ce moment-là, quand elles ont reçu ces signaux, elles vont migrer vers les ganglions où elles vont rencontrer les lymphocytes T naïfs qu'elles sont chargées d'activer. Et elles vont devenir matures, elles vont acquérir des propriétés de stimulation des lymphocytes T excellentes, elles sont les meilleures pour ça. Et c'est comme ça qu'elles sont les seules à pouvoir stimuler les lymphocytes T naïfs qui sont un peu lents au démarrage, qui ont besoin de stimulation plus forte que les autres, parce qu'on ne déclenche pas une réaction immunitaire impunément. Mais elles sont très bonnes aussi à stimuler les lymphocytes T mémoire. Et donc, il y a les différentes sortes de populations de cellules dendritiques, celles qui sont dans le sang, dont je vous ai parlé tout à l'heure, mais aussi celles qui sont au niveau des épithéliums, ont toutes des récepteurs multiples et variés, des co-récepteurs, outre CD4, CCR5, CXCR3, comme la Langerine à la surface des cellules de Langerhans dans les épithéliums multistratifiés, Donc pour l'infection VIH, épithélium multistratifié, ce sont ces muqueuses génitales qui sont la voie de passage dans le monde en général du virus, c'est-à-dire les muqueuses vaginales. Sous la muqueuse, vous avez d'autres cellules dendritiques dermiques et vous avez d'autres sortes de muqueuses qui sont unistratifiées, comme celle du rectum ou de l'intestin, et qui, elles aussi, ont des récepteurs pour le VIH. Si ces cellules fixent le virus, elles vont aussitôt aller vers les zones T des ganglions, à travers la lymphe, et aller alerter les T, mais aussi, malheureusement, aller les infecter. Donc le VIH va infecter les macrophages d'une façon assez peu efficace et va les altérer. Il va s'accumuler en fait, dans les compartiments non acides des macrophages. Ça évite la destruction du virus, alors que le macrophage est si bon à détruire les pathogènes dans ses lysosomes, c'est-à-dire des compartiments acides, mais le virus résiste au trafic vers les compartiments acides lysosomaux. Et le VIH, via sa protéine NEF encore, qui est vraiment, vraiment une molécule immunomodulatrice redoutable, va inhiber leur fonction de phagocytose. Ça a été montré récemment, notamment par Florence Niedergang et Philippe Benaroc. Les dendritiques sont infectables in vitro par le VIH. Elles ont les récepteurs qu'il faut, les dendritiques myéloïdes, les dendritiques plasmacytoïdes. Et quand elles s'infectent, c'est assez dramatique parce que quand elles vont ensuite stimuler un lymphocyte T, ça va faire une explosion de réplication virale, bien plus forte que si les dendritiques étaient toutes seules ou les T de leur côté. Il y a des formations de syncytias entre les T et les dendritiques, et dans ces syncytias se produit un maximum de virus. Et les lymphocytes T sont préférentiellement infectés par contact avec des dendritiques infectés, et aussi chez les patients, ces lymphocytes T qui sont spécifiques du VIH, puisqu'ils vont réagir au VIH, c'est ceux-là qui vont préférentiellement être infectés et préférentiellement, du coup, être tués. Vous avez vu tout à l'heure que la demi-vie d'un lymphocyte CD4 infecté était de 2 jours. Eh bien, ils vont disparaître. Donc, il va y avoir une disparition constante et massive, s'il y a du virus, il va y avoir une disparition constante et massive de lymphocyte CD4 mémoire qui était chargé de nous défendre contre l'infection. Là encore, il y a des rôles de nef dans la diffusion du virus à travers d'autres co-récepteurs. Alors, je vous ai parlé de vitro, il faut toujours retourner au vivo, parce qu'in vivo veritas, in vivo, il y a vraiment des cellules dendritiques ou des cellules de leur famille qui sont infectées. Dans les épithéliums, des cellules de Langerhans, ça a été trouvé très, très tôt dans les recherches. Dans les amygdales, ont été vus assez tôt des syncytias contenant du virus, c'est-à-dire la protéine GAG P24 et des marqueurs de dendritiques. Et puis, il y avait des grandes querelles pour savoir si les dendritiques étaient vraiment infectés in vivo. Ralph Steinmann, le pape des cellules dendritiques, dont on déplore la perte récente, à l'époque affirmait qu'elles n'étaient pas infectées du tout. Stella Knight, au contraire, disait que un tiers des cellules dendritiques in vivo étaient infectées. C'est le moment où je suis entrée dans l'arène pour aller analyser assez soigneusement et purifier des dendritiques extrêmement rares à partir de rats de patients infectés extrêmement difficiles à se procurer. Et pour voir qu'on avait certes une infection in vivo de ces cellules, qu'il y avait de l'ADN intégré dans ces cellules, oui, mais rarement. Une dendritique sur 3000, comparée aux lymphocytes CD4, en moyenne 1 sur 60, vous voyez un facteur 50 à 100 entre les deux. Et on a regardé aussi les monocytes, ceux qui expriment beaucoup CD14, eux sont infectés in vivo encore plus rarement. Donc, vous voyez, ce n'est pas très fréquent l'infection par les dendritiques, mais c'est quand même important, puisqu'après, la dendritique infectée va, en allant faire son métier pour stimuler lymphocytes T, va provoquer leur infection et une explosion de réplication virale. Donc au total, nous avons beaucoup travaillé dans mon équipe, qui a été la première à le montrer, mais aussi beaucoup d'autres équipes qui ont eu le bon goût d'aboutir à la même conclusion, sur ce que faisait le virus in vivo, sur les nombres de cellules dendritiques. Et donc on a mis en évidence pour la première fois une diminution de ces cellules dendritiques dans la circulation au cours d'une maladie, que ce soit les dendritiques myéloïdes, Et là, plus récemment, on vient de mettre en évidence sur ces nouvelles, les petites nouvelles, les BDCA3 cross-présenteuses, mais c'était déjà montré depuis longtemps par nous et par d'autres sur les dendritiques myéloïdes classiques, une diminution des dendritiques plasmacytoïdes. Donc toutes les populations sont diminuées dans la circulation. Là, non, ce n'est pas une animation. Et cette diminution des dendritiques plasmacytoïdes, elle corrélait très bien dans nos études et dans celles de tout un tas d'autres laboratoires avec la maladie, avec la charge virale. Donc, diminution de dendritiques plasmacytoïdes allait avec beaucoup de charge virale, allait avec beaucoup de déficit immunitaire et d'infections opportunistes. Donc, on avait l'impression, et avec aussi une diminution de leur capacité de faire de l'interféron in vitro. D'où une impression que les dendritiques plasmacytoïdes, par leur sécrétion d'interféron de type 1, avaient un rôle contre le virus quand même. Puis il y avait de moins bonnes corrélations avec les dendritiques myéloïdes. Donc on travaillait dessus, puis on ne publiait pas, parce qu'on cherchait toujours à mieux les distinguer. Les monocytes classiques qui sont majoritaires sont inchangés lors d'infection par VIH. Et il y avait des populations minoritaires, celles qui expriment CD16, c'est-à-dire des récepteurs des immunoglobulines, qui étaient augmentées chez des patients en stade sida et qui se retrouvaient dans les encéphalites, dans le cerveau des patients qui avaient des atteintes neurologiques liées au sida, d'où une impression qu'elles avaient peut-être une importance dans la physiopathologie. Quand les dendritiques sont infectées par le VIH, il peut arriver trois choses. Soit les dendritiques vont dégrader le virus et le présenter avec leur molécule d'histocompatibilité de classe 2, ou alors elles vont les dégrader et l'associer à leur molécule d'histocompatibilité de classe 1 et stimuler lymphocytes CD8, mais elles vont aussi pouvoir transinfecter les lymphocytes CD4 au début, c'est-à-dire avant même d'être infectées, elles peuvent conférer le virus aux lymphocytes T, étant donné qu'elles les activent et qu'elles s'en rapprochent énormément dans des synapses immunologiques. Et puis, elles peuvent finalement produire un petit peu de virus et infecter les lymphocytes CD4 ensuite comme, par une infection directe. Bon. Je vous ai mis donc en bleu dans chaque diapositive. J'ai essayé de mettre beaucoup de références, si vous voulez, aller aux sources de tous ces éléments que j'essaye de vous donner. Il a été montré en bleu ou parfois en violet, ça c'est aléatoire. Alors, les dendritiques infectées, elles vont maturer moins bien que les dendritiques non infectées. Le virus provoque une réduction de la maturation, une maturation partielle. Il y a augmentation des molécules de co-stimulation, mais il y a déficit de production d'IL-12, et là, c'est pire que tout, la dendritique devient tolérogène au lieu d'activer les lymphocytes. Enfin, pire que tout dans ce qui est défense antivirale. Également, et ça, c'est dû aux molécules d'enveloppe et à VPR, notamment, ça a été montré. Plus récemment, il a été montré que, par le laboratoire d'Olivier Schwartz à Pasteur, que le VIH va diminuer l'autophagie dans les dendritiques, c'est l'enveloppe qui est responsable de cela. L'autophagie qui, normalement, va aider à dégrader les virus, va aider à leur présentation. Et là, le virus va diminuer cette formation d'autophagie. Il y a les immuno-emphysomes, ça c'est un néologisme, c'est-à-dire ces phagosomes d'autophagie qui contiennent du virus, comme ici, qui contiennent GAG et la molécule liée aux vésicules d'autophagie LC3, donc vont être diminuées dans la cellule infectée par VIH. Et du coup, il y a beaucoup plus d'infections. Vous voyez, plus de verre, plus de GAG produit, si l'autophagie est inhibée par l'infection VIH, ou alors si elle est expérimentalement inhibée par un siRNA anti-LC3. Donc c'est assez ennuyeux parce que ça va diminuer à la fois la destruction, la dégradation du virus dans ces cellules et leur présentation aux lymphocytes CD4, donc les défenses adaptatives. Nous avons constaté aussi qu'il y avait un déséquilibre des réponses. Il y a très peu de réponses IL-12 lors de l'infection par le VIH. Vous avez ici l'analyse de patients qui ont été suivis dans la cohorte primo de la NRS pendant 2 ans, 18 mois à 2 ans, lors d'infection VIH. Vous voyez que leurs cellules stimulées par le LPS sont capables, au début de l'infection, de faire de l'IL-12, mais normalement, ou à peine plus que la normale étant entre les deux bornes pointillées. Et puis, au cours du temps, cette capacité se perd. Mais pendant ce temps-là, il y a une production très élevée, plus que la normale, d'IL-23, qui est une autre cytokine parente de l'IL-12, qui partage une chaîne avec l'IL-12. Et cette surproduction d'IL-23 continue jusque dans l'infection chronique. Qu'est-ce que ça peut faire, ce déséquilibre de l'IL-23 par rapport à l'IL-12? Ça peut produire une augmentation de différenciation de ces TH17 qu'on a vu tout à l'heure, les T auxiliaires qui aident aux défenses dans l'intestin. Mais on a vu que dans l'infection VIH, elles aideraient bien volontiers, mais elles ne sont plus là parce qu'elles ont été détruites, étant activées et donc tuées par le virus. Et donc, il est bien possible que ça soit médié par une activation permanente, par cette hypersécrétion d'IL-23. C'est un des sujets sur lesquels mon laboratoire travaille en ce moment. J'arrive à un effecteur suivant. Et alors là, je crois que le séminaire dure 1 heure. Donc, je vais devoir accélérer ou sauter un certain nombre de choses, excusez-moi. Mais au moins, le séminaire, s'il s'arrêtait maintenant, vous aurez parlé des deux types de cellules cibles de l'infection à cause de leur récepteur CD4 et de leur co-récepteur CCR5 et CX4-CR1. Mais les autres cellules ne sont pas infectables, hein, donc mais ce sont des acteurs de la défense contre le virus. Vous avez les lymphocytes T cytotoxiques. Là, c'est symétrique de ce que je vous ai montré pour les lymphocytes CD4. Eux, ils expriment CD8, qui a une affinité pour les molécules d'histocompatibilité de classe 1 sur les cellules présentatrices, donc vont reconnaître des peptides épitopiques associés à classe 1 et vont déclencher une cytolyse dont, au cours des années, un faisceau d'arguments a montré qu'elle était indispensable à la défense contre le VIH. S'il n'y a pas de lymphocytes CD8, et il y a eu des expériences de déplétion chez le singe, le virus flambe. Donc c'est une des défenses le mieux démontré qu'elles sont utiles contre le VIH, pour l'instant. Et donc les épitopes qui sont reconnus sont multiples et variés, vont pouvoir s'associer à différentes molécules HLA, ici HLA-A2, A3, B35, etc. C'est des régions des protéines du VIH qui, découpées par des enzymes dans les cellules présentatrices, vont former ces épitopes. Et il y a une corrélation établie entre les réponses T-CD8, plus il y en a ici, et moins il y a de charge virale plasmatique. Donc la charge virale plasmatique diminue quand il y a beaucoup de lymphocytes spécifiques du VIH. Il y a, lors de l'infection, une réplication virale très importante qui diminue, notamment sous l'action de ces lymphocytes cytotoxiques. Et on pense que l'équilibre qui s'établit à la fin de l'infection primaire est une résultante de la virulence du virus particulier qui a infecté ce patient et de la réponse du système immunitaire, et particulièrement des réponses CD8. Donc le niveau de charge virale qui va rester est d'autant plus bas que la réponse immunitaire aura été efficace. Et il a été établi que ce niveau corrèle avec le pronostic ultérieur de la maladie. S'il est bas, au bout de 6 ou 12 mois, le pronostic est meilleur que s'il reste élevé à la fin de l'infection primaire. Bon, je vais sauter ça. Et vous parlez de l'échappement du virus aux mutations, par mutation, au CTL. Il a été assez rapidement les premières défenses cytotoxiques donnent naissance à un échappement des virus qui de façon aléatoire mutent, et les mutants qui échappent à cette réponse sont ceux qui vont pouvoir se répliquer. Donc, ici, je vous ai montré l'exemple d'un des premiers articles qui montrait un tel échappement où un épitope, ici, était muté chez un patient et dont la charge virale était très élevée. Comment est-ce que le virus va échapper ? Il va échapper en faisant muter soit la région qui interagit avec le récepteur T, d'un côté de l'interaction, ici c'est la cellule infectée. Donc la cellule infectée présente avec son complexe majeur d'histocompatibilité des épitopes au récepteur T. Donc il y a des mutations soit du côté reconnu par le récepteur T, soit du côté qui peut se lier aux molécules d'histocompatibilité, soit dans la digestion des épitopes qui aboutit à cette liaison, soit dans le transport des protéines digérées pour aller rejoindre les molécules d'histocompatibilité, soit même en amont, au niveau des sites qui permettent la liaison à l'enzyme maîtresse de la fabrication des épitopes, qui est le protéasome. Donc, le VIH a des moyens de contrecarrer le système immunitaire à ces différentes étapes, de même que beaucoup d'autres virus. Ce n'est pas une singularité du VIH. Les herpesvirus, par exemple, sont les rois de l'évasion du système immunitaire pour éviter de générer des épitopes et donc d'être reconnus. Donc il y a un équilibre qui s'établit entre les différents facteurs qui contribuent à l'échappement du virus, que ce soit VIH ou le modèle simien SIV. D'un côté, l'efficacité des lymphocytes cytotoxiques, de l'autre côté, par exemple, la down-modulation des molécules de classe 1 par nef. Les lymphocytes CD8, au départ, quand ils sont naïfs, expriment un certain nombre de marqueurs. Quand ils deviennent mémoire, ils sont capables de recirculer dans la circulation et quand ils sont effecteurs, d'aller dans la circulation combattre les virus. Donc, et ils deviennent effecteurs, ils ont de la perforine pour aller détruire leur cible, perforer la membrane de leurs cellules cibles infectées, par exemple. Et un effecteur, c'est comme une grenade dégoupillée, hein, c'est des réactions assez violentes. Dans les infections contre le CMV, par exemple, qui est un virus que nous contrôlons, que la moitié d'entre nous, avec lequel la moitié d'entre nous est infectée et que nous contrôlons très bien, les réponses cytotoxiques anti-CMV développent ces différentes capacités en permanence. Il y a toujours des mémoires effectrices qui sont là contre ce CMV qui est là sans nous faire de mal grâce à notre système immunitaire. Dans l'infection VIH, au contraire, les lymphocytes T mémoire sont déficitaires. Les lymphocytes T qui portent les bons récepteurs contre le VIH vont être négatifs pour la perforine, par exemple. Et donc, il y a un effet d'épuisement des lymphocytes T, petit à petit, de perte de capacité. Les lymphocytes T CD8 apoptosent de plus en plus, prolifèrent de moins en moins, ont une activité cytotoxique moindre, parce qu'ils ont moins de perforine, prolifèrent moins, ça c'est lié à la production d'interleukine 2, et finalement vont devenir incapables de combattre le virus. Ils deviennent épuisés, c'est l'épuisement du système immunitaire. Bien, voilà. Je me demande si je ne vais pas arrêter. Je crois que j'ai atteint mon heure limite. Je crois que ça serait plus clair si donc je m'arrêtais là, plutôt que d'essayer de vous raconter très rapidement la suite, qui était d'une part des mécanismes sur lesquels il y a moins de preuves d'action du système immunitaire sur le virus, mais qui certainement sont à développer, qui sont importantes. Donc je vous les énonce quand même, les lymphocytes natural killer, les anticorps, ça c'est quand même très important, hein, c'est ceux qui reconnaissent la surface du virus et sa diversité, et puis les facteurs de restriction qui sont le nouveau chapitre de l'immunité. Ce n'est pas vraiment de l'immunité, c'est de la biologie cellulaire, mais les cellules ont des facteurs intrinsèques qui leur interdisent d'être infectées par différents virus. Et les virus, eux, ont beau jeu de faire des molécules pour contrecarrer ces mécanismes intracellulaires. Donc, c'est ce qu'on appelle les facteurs de restriction. Là, c'est un nouveau chapitre qui s'ouvre. Voilà. Donc, ces différents mécanismes se conjuguent. Et ce qui est intéressant, c'est de comprendre comment tout cela s'intrique afin de reprendre le contrôle de l'avion dans l'histoire naturelle de l'infection par le VIH. Je vais donc m'arrêter là, sur cette perspective, optimiste, mais raisonnablement optimiste. Et si vous avez des questions, je serai contente d'y répondre.